Père, nous voulons savoir apprécier les choses qui ont de la valeur. Nous reconnaissons, Éternel, que nos pensées sont souvent chargées des choses qui n'ont pas une valeur éternelle. Et nous gaspillons souvent notre temps, nos énergies sur des choses qui n'ont pas une valeur éternelle. Et Père, nous voulons que ça change cette année. Nous voulons que les choses qui sont chères à ton cœur deviennent chères à nos cœurs. Nous voulons avoir la même vision du monde que toi. Nous voulons avoir la perspective divine. Nous voulons être totalement libérés de l'esclavage de la chair qui nous amène à donner une importance excessive aux choses qui n'ont qu'une importance mineure. Qui nous amène à consacrer notre temps à des choses qui n'ont qu'une importance mineure. Nos pensées à des choses qui n'ont qu'une importance mineure. Père, nous voulons fonctionner comme tu fonctionnes. Nous te demandons ce matin, Papa, de toucher chaque homme et chaque femme ici. Ici, ce matin, et plus tard chez nous, toute cette semaine. Nous ne voulons pas démarrer cette année avec les mêmes perspectives qu'avant. Parce que, Père, chaque jour qui passe ne se renouvellera jamais. Et nous voulons racheter le temps. Nous pouvons toutes choses par Christ qui nous fortifie. Et nous voulons cette année, Papa, que tu puisses nous regarder avoir un grand sourire en voyant ta volonté manifestée à travers nous. Père, nous te demandons de saisir nos cœurs pour que nous cessions de prendre plaisir dans des futilités. Que nous cessions d'être ces enfants devant qui une table a été dressée mais qui continuent à manger les miettes qui tombent par terre. Parce que nous sommes les enfants du royaume. Nous sommes ceux qui ont été habillés d'une robe royale et qui ont été invités à partager les mets du roi. Père, nous te remercions de ce que ta parole qui pénètre en nous cette année va réellement nous changer en profondeur. Nous voulons tellement vivre des vies qui te sont agréables. Être une bénédiction pour toi, Père. Être une source de réjouissance dans ton royaume. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur pour sa parole ce matin? Père, nous voulons être sérieusement transformés. Amen. Nous te remercions pour le plaisir de nous réjouir en toi. Nous te remercions aussi pour la joie d'être transformés par toi. Et pour la joie de pouvoir voir que nos vies sont conformes à ton cœur. Et la joie de nous réjouir en toi sans nuage entre nous, Père. La joie de voir des vies transformées à travers les nôtres. Père, nous te remercions pour ta parole ce matin. Sans persuader qu'elle va changer nos vies. Sans persuader qu'elle va nous donner un nouvel éclairage. Va nous amener à vivre différemment, à voir différemment, à penser différemment. Merci, merveilleux Saint-Esprit, parce que tu vas faire ce matin ce que tu aimes faire, illuminer les yeux de nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Amen.
Vous pouvez vous asseoir. Je vais vous demander de regarder avec moi dans Luc chapitre 19. Thank you, Father. Hier, j'étais en train de vaquer à mes occupations. Je méditais la parole de Dieu. Et le Seigneur a commencé à me montrer Jésus. Et j'ai commencé à voir la bonté de Jésus. Vous savez, on peut lire les évangiles. et trouver que tout ça, c'est merveilleux, sans pour autant être transpercé par la réalité de la bonté de Dieu. Je prie vraiment que chacun de nous, nous ayons une révélation de Jésus. Amen. Vous savez, dans Actes 10, 38, il nous a dit qu'il allait partout faisant du bien. Et quand vous regardez dans les évangiles, vous voyez que cette description était exacte. Jésus allait partout faisant du bien. Il était souvent confronté à la détresse humaine. Il n'y a pas une seule fois où il a refusé de secourir les gens. Et il n'y a pas, non seulement il n'y a pas une seule fois où il a refusé de les secourir, il n'y a pas une seule fois où il était incapable de le faire. Est-ce que vous comprenez? Et il est vrai qu'il y a des moments où il nous disait que Jésus était ému de compassion. Mais même quand ça n'était pas dit, sa réaction, ses paroles, son attitude. Il était tellement déterminé à faire du bien qu'il a même violé la loi du sabbat. Parce qu'il a dit que le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et que nous ne devons imposer aucune règle qui empêche aux gens de recevoir de Dieu. Que lorsque les gens sont dans la détresse, lorsque les gens sont dans le désespoir, on ne peut pas refuser de les secourir. Et ce qui m'a frappé, ce qui me frappe en fait à chaque fois que je lis les évangiles, c'est que les paroles les plus dures que Jésus avait étaient pour les gens religieux. Qui étaient tellement fermés dans leur système religieux, qu'ils ne voyaient que leur système, ils ne voyaient plus les gens. Ils ne voyaient plus leurs besoins. Ils ne voyaient plus la nécessité de les amener à Dieu. Ils ne voyaient que leur système religieux. Et Jésus, les gens venaient à lui. Et il nous a dit que les gens venaient de tous les villages de la Galilée. Parce qu'ils entendaient que quelque part, il y avait quelqu'un qui faisait du bien. Il y avait quelqu'un qui apportait du secours. Et Jésus les regardait. Et à un moment donné, il nous a dit qu'il les regardait et son cœur était ému parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Et il a oint ses 12 disciples, il les a envoyés pour aller dans les villes partout, pour aller les secourir, pour aller les aider, pour aller les guérir, pour aller les restaurer, pour aller leur annoncer le royaume de Dieu. Parce qu'il avait tellement envie de leur faire du bien. Et pendant que j'étais en train de louer le Seigneur ce matin, il m'a mis un passage dans le cœur qui en fait... Après, j'ai vu le lien avec ce que je voulais vous partager aujourd'hui, mais je n'avais pas vu le lien au départ. J'ai dit, Seigneur, tu changes tout, ben, c'est comme tu veux, tu es le chef. Je vais vous demander de regarder avec moi dans Luc chapitre 19. Dans Luc chapitre 19, verset 12, il nous a dit ceci. Jésus raconte cette parabole. Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Et c'est cette phrase que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin. Et en anglais, cette phrase est traduite, occupy till I come. En d'autres termes, comment est-ce qu'on dit cela? Occupy till I come. Occupy. Occupy. gère, prendre en charge, fructifie. Savez simplement, occupez-vous des affaires jusqu'à ce que je revienne. Il y a une autre traduction qui dit, do business till I come. Dans notre version française, il dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Donc, cet homme part et il laisse à ses disciples une affaire à gérer. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient, ils envoyaient une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné de l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier va et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second va et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Il lui dit, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régne sur eux et tuez-les en ma présence. Occupez-vous des affaires jusqu'à ce que je revienne. Ce que j'ai commencé à comprendre, c'est ceci. Jésus nous montre, la parole de Dieu nous montre l'image de Jésus sur la terre. Cet être compatissant, généreux, aimant, qui se donnait et qui donnait tout. Et qui a commencé une œuvre. Et a choisi les 12, leur a donné la capacité de faire la même chose, d'aller dans toutes les villes pour aller secourir les gens. Et après, il est mort, il est ressuscité, il a quitté la terre. Mais avant de partir, il leur a raconté cette histoire. Parce qu'au moment où il racontait cette histoire, c'est le moment où les gens attendaient que le royaume de Dieu vienne. Ils se dirigeaient vers Jérusalem, les gens disaient, c'est bon, ça y est. Parce que l'idée qu'ils avaient, eux, du royaume de Dieu, c'était Jésus allait prendre l'autorité royale terrestre. Il allait être couronné comme roi. Et par ailleurs, dans l'évangile de Jean, lorsqu'il est question dans de ces miracles, ils nous ont dit qu'ils ont voulu le prendre pour en faire roi. Et Jésus a dit non, 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 non. Mais c'est une image du royaume de Dieu que Jésus nous donne ici. Que lui allait partir. Mais à ceux qui le suivent, il confie une tâche, il confie un mandat. Et il leur dit, occupez-vous des affaires jusqu'à ce que je revienne. Et quelles sont les affaires dont ils sont censés s'occuper, dont nous sommes censés s'occuper, nous occuper les affaires du royaume de Dieu. Ce que Jésus faisait quand il était sur la terre, il allait partout faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Il allait partout faisant du bien. Et pour que nous n'ayons aucun doute là-dessus, Jésus a dit avant de partir, allez et faites des nations des disciples. Allez et faites des nations des disciples. Je dis toujours, et je l'ai dit lorsque nous avons fait l'enseignement sur l'Église, qu'en réalité nous sommes ici sur terre pour magnifier Dieu par nos vies, mais pour amener les gens à la connaissance de Dieu. Et c'est très important pour nous de voir Jésus, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est, nous devons être des imitateurs de Christ. Et quand nous voyons Jésus, nous voyons ce que nous sommes censés être. Et au fur et à mesure que Dieu nous ouvre les yeux pour contempler ce que Jésus a été sur la terre, nous comprenons le grand mandat que Dieu nous a donné, les grandes capacités que Dieu nous a données. Et très souvent, nous sommes loin d'être ce que Dieu veut que nous soyons, ou du moins de faire ce qu'il veut que nous fassions, parce que nous sommes tellement préoccupés avec des choses de nos vies. Nous sommes tellement préoccupés par le quotidien. Et tant que le quotidien n'est pas réglé, nous ne nous croyons pas à même de faire ce que Jésus a dit. Et tant que nous avons cette attitude, notre quotidien ne sera jamais réglé. Il y a un problème qui va disparaître et un autre qui va venir. Et à chaque fois, nous aurons l'impression que tant que ça, ce n'est pas résolu, je ne peux pas vraiment m'occuper des affaires de Jésus. Or, Jésus ne nous a pas dit « Occupez-vous des affaires jusqu'à ce que je revienne uniquement si toutes les questions de votre quotidien sont réglées. » Vous savez, il y a un jour, les disciples étaient dans une barque. Avant même d'en arriver là, je vous ai dit qu'il les avait envoyés pour aller guérir les malades, chasser les démons, etc. Donc, il leur avait donné une certaine capacité. Et ils savaient que Jésus était avec eux. Mais il s'est passé quelque chose par la suite. Je vais vous montrer que ce n'est pas... C'est une décision de nous occuper des affaires du royaume. Ce n'est pas fonction de nos circonstances. Parce qu'après qu'ils les aient envoyés, qu'ils aient vu la main de Dieu, il s'est passé autre chose qui a montré qu'ils n'étaient pas encore conscients de ce que Dieu a mis en eux. Je veux que vous disiez à votre voisin, tu dois être conscient de ce que Dieu a mis en toi. Maintenant que cela est dit, je vais vous demander de regarder dans Marc chapitre 4. Il se passe quelque chose de très intéressant dans Marc chapitre 4. Parce que je veux que chacun de nous, que nous sortions d'ici avec cette parole que le Seigneur a déposée dans mon cœur ce matin, occupez-vous des affaires jusqu'à ce que je revienne. Et que vous compreniez que c'est à vous que ça s'applique et que vous n'avez aucune raison de ne pas le faire. Dans Marc chapitre 4, nous allons voir différentes situations que les gens ont pu vivre en la présence de Jésus et comment Jésus s'attendait à ce qu'ils réagissent. Pour que nous comprenions comment nous sommes censés réagir. Et nous avons dit que Jésus est un souverain sacrificateur qui peut s'identifier à nous parce qu'il a vécu comme nous avons vécu, comme nous vivons. N'est-ce pas? Donc tous ces commandements sont logiques et normaux et faisables. Vous êtes d'accord avec moi? Dans Marc chapitre 4, au verset 35, Jésus dit à ses disciples ici, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva en grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Combien de fois est-ce que nous avons eu l'impression dans notre situation lorsque nous pensions être dans un tourbillon, dans une tempête, que Jésus dormait? Combien de fois est-ce que nous avons eu l'impression qu'il semblerait que Dieu soit parti en vacances pendant que nous sommes en train de souffrir? Et donc, toute notre attention est prise par ce que nous vivons. N'est-ce pas? Toute notre pensée est prise par ce que nous vivons. Et nous estimons que tant que Dieu ne réagit pas, tant que Dieu ne fait pas quelque chose, il ne peut pas s'attendre à ce que nous, on s'occupe des affaires pour lui. Oh, c'est parce que nous avons oublié qui nous sommes et ce que Jésus a mis en nous. Et que nous ne saisissons pas les principes du royaume de Dieu. Je demandais hier, par exemple, à la prière, à la fin, on a eu un merveilleux moment à la prière hier, n'est-ce pas? Je ne sais pas qui est-ce qui est censé rassembler tous les différents points que les différents groupes ont évoqués. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été désigné? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'auto-désigner? À grâce s'auto-désigne. C'est à toi que je pensais, mais je suis contente que tu te sois désigné. Gloire à Dieu. Et pour tout rassembler, donc on a eu un merveilleux moment, n'est-ce pas? Et je vous ai posé une question à la fin. Il y a quelque chose qu'on avait fait il y a deux samedis. Et que je vous avais dit qu'il fallait que vous continuiez vous à faire à la maison. Et je vous ai posé la question de savoir qui l'avait fait. Il y avait une nette minorité qui l'avait fait. Vous comprenez, ce sont là les choses que Dieu nous donne pour agir dans nos vies, pour nous construire, pour nous bâtir. Et nous les ignorons. Nous ne les tenons pas en compte. Nous entendons un message le dimanche, c'est merveilleux, hallelujah. Nous rentrons et nous n'en tenons absolument pas compte. Mais alors nous nous demandons pourquoi Jésus n'intervient pas dans notre situation. Parce que les clés qu'il nous a données, nous ne les avons pas saisies. Et nous voulons qu'il fasse à notre manière. Il est important pour nous de commencer à saisir les clés que Dieu nous donne. Alors Jésus donne une clé à ses disciples ici. Il dit, passons de l'autre côté. Est-ce que vous savez que c'est une clé? La parole de Jésus, la parole de Jésus est éternelle. Si Jésus a dit que nous allons passer de l'autre côté, c'est que nous allons passer de l'autre côté. C'est que tempête ou pas, nous allons arriver sur l'autre rive. Dieu nous donne constamment des clés. Nous devons être vigilants. Il n'est pas là où nous pensons. Ce n'est pas parce que je pense de cette manière que je pense qu'il me faut ça, il me faut ça. Que ce soit ça vraiment dont j'ai besoin. Dieu sait ce dont j'ai besoin. Et à un autre moment, à une autre situation où je ne vois même pas le lien, il donne une clé. Et je ne la saisis pas. Et au moment où je suis dans la tempête, je ne sais plus quoi faire. Parce que quand Dieu m'a donné la clé, je n'ai pas saisi. Parce que j'ai méprisé ce que Dieu avait fait pour déjà me préparer et ouvrir le chemin pour moi. C'est tellement important pour nous d'être vigilants, d'être attentifs. Ne jamais rien prendre pour acquis. Rien. Rien. Il y a une consigne, on suit. Il y a une parole, on suit. Parce que ce que vous suivez aujourd'hui va vous préparer pour ce qui va venir. Est-ce que vous me suivez? Et Jésus avait donné sa parole, mais ils n'ont pas fait attention. Donc, quand ils se sont retrouvés dans la tempête, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de dire, de toute façon, c'est pas grave, le Seigneur a dit qu'on passe de l'autre côté, il est là avec nous, on ne risque pas de couler. Ils ont dit, ah non, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Ah non, non, on va pas y arriver. Ah non, non, c'est pas possible. Obsédés par leurs difficultés, obsédés par leurs problèmes, obsédés par la circonstance présente, qui d'ailleurs aurait pu être gérée différemment s'ils avaient écouté ce que le Seigneur disait. Obsédés, totalement obsédés. Et la majorité des chrétiens vivent obsédés par leurs circonstances personnelles. Obsédés. Donc, entre-temps, les affaires du royaume souffrent. Le mandat de Jésus occupé jusqu'à ce que je vienne, cela souffre. Pourquoi? Parce qu'ils sont obsédés par leur tempête. Et sont tellement préoccupés, persuadés que Dieu a décidé de leur faire la sourde oreille. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que ils sont allés réveiller Jésus, ils ont dit, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Mais on est en train de mourir et toi tu dors. Seigneur, t'as vu mes circonstances, tu fais quoi? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de raconter à quelqu'un les difficultés auxquelles vous êtes confronté et que la personne sourit et dit, ah, c'est rien? Il vous est jamais arrivé de dire, mais attends, c'est rien? Non, mais c'est rien? Enfin, vous le pensez. Vous êtes chrétien maintenant, vous n'allez pas, hein? Et après, vous allez appeler votre ami pour dire, mais attends, cette flow-là, si ce n'était pas pour la grâce de Dieu. C'est exactement ce que Jésus leur a dit ici, mais c'est rien. Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, ils furent saisis d'une grande frayeur. Incorrigible. Hein? Ils ont eu encore plus peur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Vous voyez d'où vient leur problème? Ils n'ont pas tenu compte de la parole que Jésus a donnée. Ils n'avaient pas une vraie révélation de qui était Jésus. Et à chaque fois que je suis enfermée dans mes circonstances, que je ne vois pas de porte de sortie et que je ne réponds pas au mandat de Jésus d'occuper jusqu'à ce qu'il vienne, c'est parce que je ne le vois pas. Je ne suis pas en train de le voir, de le regarder tel qu'il est et de comprendre que tout lui est assujetti et que par conséquent tout m'est assujetti. Et ce qui m'épate dans cette histoire, c'est que ils étaient vraiment dans une tempête. Vous me suivez? Ce n'était pas qu'ils étaient, ils avaient l'impression d'être dans une tempête, ils étaient réellement dans une tempête. Il y avait un vrai danger. Mais Jésus estimait qu'ils auraient dû comprendre qu'il était impossible pour eux de couler en sa présence. Même s'il était en train de dormir. Je vais vous dire une chose. Si vous décidez de faire en sorte que les préoccupations de Dieu deviennent les vôtres, vous allez voir le secours de Dieu dans vos circonstances. Dieu ne nous secourt pas parce que nous faisons beaucoup de choses. Mais lorsque nous sommes engagés avec Dieu, main dans la main avec Dieu, et que nous ne laissons rien dans nos vies devenir des montagnes qui nous empêchent de voir ce que Dieu voit et de le servir et de faire en sorte que son royaume avance, c'est un témoignage de notre foi. Que nous estimons, Seigneur, tu t'occupes de mes affaires, je m'occupe de tes affaires. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur m'a appris il y a quelques années, et c'est devenu pour moi un leitmotiv. Que rien sur la terre, dans les cieux, ne m'empêchera de m'occuper des affaires de mon Seigneur. Rien. Tu t'occupes de mes affaires, je m'occupe de tes affaires. Et que ces gens devaient savoir que quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvaient, Jésus n'allait pas les laisser tomber. Et nous avons besoin de contempler Jésus. Parce que quand nous voyons, quand nous avons une plus grande révélation de Jésus, cela devient normal, naturel, indispensable pour nous de faire les affaires de Jésus, de faire ce qu'il faisait, aller partout faisant du bien. Parce que c'est grâce à tout cela que nous sommes là. Nous prenons la mesure de ce que Jésus a donné pour nous. Et nous ne nous permettons plus de passer un seul jour sans que quoi que ce soit vienne de notre vie pour faire avancer son œuvre, pour que d'autres personnes sur la terre puissent savoir ce que Jésus a donné pour elles. Et vous savez, le même regard que Jésus avait sur sa génération, c'est celui que nous devons avoir sur notre génération, si réellement nous avons son cœur. Le même amour, c'est cet amour que nous devons avoir. Vois tous ces gens comme des brebis qui n'ont pas de berger. Au lieu de vous battre avec les gens au travail, voyez-les comme des brebis qui n'ont pas de berger. C'est vraiment important pour nous de saisir qui nous sommes en Christ, pour que nous sortions de ces histoires quotidiennes qui nous affaiblissent et qui nous empêchent d'amener les gens à la connaissance de Christ, parce que nous sommes constamment mis en danger. Nous nous sentons mis en danger. Quelqu'un m'a agi envers moi de façon désagréable, je me sens mis en danger. Mais rien ne peut nous mettre en danger tant que nous sommes en Christ. Et parce que nous nous sentons mis en danger, que nous sommes constamment en train d'établir notre position, de nous affermir, nous sommes désagréables avec les frères et sœurs, nous sommes désagréables avec un tel et un tel, et nous essayons constamment de nous protéger, de couvrir nos bases, de faire en sorte qu'on ne va pas m'avoir, on ne va pas m'avoir. Mais si nous sommes en Christ, nous avons la sécurité. Et nous pouvons donc concentrer nos efforts sur ce qui fait plaisir au Seigneur, amener les gens à la connaissance de Dieu. Et quand nous voyons comment Jésus voyait les gens, la compassion qu'il avait pour les gens, quelqu'un vient et vous êtes en train de conduire, la personne vous insulte, au lieu de vouloir le gifler, vous pleurez, vous dites, malheureux, il ne connaît pas Dieu. Il a besoin du Seigneur. Nous avons besoin de nous libérer de nous-mêmes. De commencer à vivre par la foi, à faire confiance au Seigneur et arrêter d'être tellement obsédé par moi, il m'a parlé, ils ont agi mal, j'ai pas ça, j'ai pas ci, j'ai besoin de ci. Constamment, en vivant dans une tempête permanente.
Et avec l'impression qu'il faut que nous nous défendions, qu'il faut que nous cherchions, que nous trouvions. Donc pour l'instant, Dieu, c'est, oui Seigneur, je sais, mais pour l'instant, non. Et le temps passe, et le temps passe, et le temps passe, et le temps passe. Et l'histoire que Jésus raconte ici est tellement forte, parce qu'elle parle de différentes personnes et des réactions différentes face au mandat de Jésus. Et vous voyez ce qui est intéressant ici? C'est qu'il donne la même chose à tout le monde. Nous avons bu du même esprit. Il donne la même chose à tout le monde. Et chacun doit faire. Et la différence, c'est l'application de chacun. Ce sont les choix de chacun. Vous suivez? C'est ça qui fait la différence. C'est le choix que chacun fait qui fait la différence. Et les disciples étaient effrayés parce que Jésus leur a dit, comment n'avez-vous point de foi? Si nous voulons réellement faire le plaisir de Dieu cette année, nous avons besoin de foi. Mais ce qui est merveilleux, c'est que nous avons déjà reçu la foi. Que notre foi peut grandir en méditant sa parole. Je vous ai dit que Jésus avait envoyé ses disciples, les 12 apôtres, pour aller dans différentes villes. Vous pouvez lire l'histoire dans Luc chapitre 9. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils sont revenus, Jésus a voulu s'isoler avec eux pour qu'ils se reposent. Mais ils n'ont pas pu se reposer parce que les foules les ont suivis. Donc Jésus s'est encore occupé des foules. Et à la fin de la journée, il a dit, mais c'est un lieu désert, comment est-ce qu'on va faire pour que ces gens mangent? Et les disciples, les mêmes qui revenaient d'une expédition extraordinaire, miraculeuse, ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades, ils ont vu la puissance de Dieu se manifester, sont venus à Jésus pour dire, Seigneur, il faut les renvoyer ces gens. Parce qu'on n'a pas de quoi les nourrir. C'est un lieu désert. Je vais regarder dans Luc chapitre 9. Et ce qui est extraordinaire, si vous lisez ce passage où il envoie ses disciples, c'est que il leur a dit de ne rien prendre pour leur voyage. Ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, ni même deux tuniques. Donc, ils étaient totalement dépendants de la provision divine. N'est-ce pas? Et il nous a dit, ils partirent et ils allèrent de village en village annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. C'est une chose qu'ils voient Jésus opérer des guérisons. C'était autre chose que eux aillent opérer des guérisons. Donc, ils ont vu Dieu agir à travers eux. Et beaucoup d'entre nous, nous avons vu Dieu agir à travers nous. Et nous allons voir Dieu agir à travers nous. Alléluia. Mais la prochaine fois que Jésus va venir vous dire, je veux que tu fasses ça, qu'est-ce que vous allez dire? Ah non, comment ça? Combien de fois? Ils viennent, ok, nous allons faire ça, je veux que tu t'occupes de ça. Ou, Seigneur, écoute, tu sais, c'est pas évident. Je vais t'expliquer. On est en France, et surtout à Paris, les gens sont pas ouverts. Alors ça, je veux bien le faire aux Antilles, mais à Paris, c'est autre chose. Ou Seigneur, mais je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un a réussi à faire ça. Il y a beaucoup d'opposition en France. Beaucoup d'opposition. Tu comprends? Beaucoup d'opposition. Chaque victoire doit être le tremplin pour une prochaine victoire. Nous ne sommes pas censés toujours ramener Dieu à zéro, comme s'il n'avait jamais rien fait. Et souvent, c'est comme ça que nous fonctionnons. Nous devons emmagasiner la foi. Nous avons vécu une expérience victorieuse. Ça doit continuer à augmenter. Notre capacité de croire doit continuer à augmenter. Notre capacité d'action doit continuer à augmenter. Ce n'est pas une expérience merveilleuse et ouf, c'est bon, hallelujah, Dieu est grand. Et la prochaine étape, oh! Si nous voulons réellement occuper jusqu'à ce qu'il vienne, nous avons besoin de cette mentalité où nous ne sommes pas constamment en demandant à Dieu de se prouver. Il s'est déjà prouvé en Christ. Nous pouvons le prendre au mot. Nous pouvons avancer par la foi sur la base de ce qu'il dit. Nous avons tous déjà vécu des choses. Nous savons que c'est Dieu qui a opéré, c'est Dieu qui a agi. Alors la prochaine fois, pourquoi paniquer? La prochaine fois, pourquoi dire je ne sais pas faire, je ne comprends pas, je ne sais pas faire? Quand je venais d'être convertie, j'ai fait connaître des chrétiens qui avaient une façon de prier. Ah, ça déteint sur moi. Et il rappelait à Dieu qui il était. Et il lui rappelait ses œuvres passées. Pas style Gédéon, où sont ses œuvres dont nous avons entendu parler? Non, c'est mes seigneurs. J'ai confiance en toi. Après tout, c'est toi qui as ouvert la mer Rouge. C'est toi qui as fait passer ton peuple sur terre sèche. Et après, tu as fait engloutir les autres. Seigneur, tu sais faire. Tu sais délivrer ton peuple. Après tout, Seigneur, c'est toi qui as délivré Daniel. C'est toi qui as délivré les trois garçons hébreux. Seigneur, tu n'es pas à ton premier essai. J'ai confiance en toi. Après tout, Seigneur, lorsque Anne n'avait pas d'enfant, elle est venue crier à toi. C'est toi qui lui as donné un enfant. Tu ne fais exception de personne. J'ai confiance en toi, Seigneur. N'oubliez aucun de ses bienfaits. Lorsque nous avons cette attitude, nous devenons réellement des géants de la foi. Parce que nous n'oublions pas. Et que les expériences passées en Dieu, que ce soit les expériences d'un autre ou les expériences de la parole qui ont été écrites pour nous servir d'exemple ou les nôtres, doivent nous amener plus loin, doivent faire en sorte qu'on engage la bataille à un niveau supérieur. À chaque fois, au niveau supérieur, au niveau supérieur. Ce n'est pas comme si on recommence tout de nouveau. Seigneur, je comprends rien, je ne sais rien, je ne peux pas. Non. Et il y a une leçon à apprendre de ces choses. Parce que lorsque ces gens reviennent, après avoir opéré toutes ces guérisons, ils partent avec Jésus, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Les foules viennent et maintenant il faut nourrir la foule et ils vont voir Jésus. Ils vont voir Jésus. Au verset 12. Les 12 s'approchaient et lui disent, renvoie la foule. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Information manifestement que Jésus ne détenait pas. Jésus leur dit, écoutez ce que Jésus leur dit. Écoutez bien ce que Jésus leur dit, parce que c'est ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Lorsque Jésus nous a dit de nous occuper des affaires jusqu'à ce qu'il revienne, en réalité, ce qu'il est en train de nous dire, c'est occupez-vous du monde, occupez-vous des nations, occupez-vous de vos voisins, occupez-vous de votre famille, occupez-vous de tous les gens avec qui je vais vous connecter, qui ne me connaissent pas, et même ceux qui me connaissent, occupez-vous d'eux jusqu'à ce que je revienne. Occupez-vous de les faire entrer dans mon royaume. Occupez-vous de les faire grandir spirituellement. Occupez-vous de les délivrer. Occupez-vous de leur faire du bien et de les guérir jusqu'à ce que je revienne. C'est important pour nous de saisir, de comprendre que notre destinée en Christ, ce n'est pas d'assister au culte tous les dimanches. Notre destinée en Christ, c'est de nous occuper des affaires du royaume de Dieu. Jésus s'est tourné vers ses disciples, 5000 hommes, donc plus de femmes et plus d'enfants encore. Comme toujours, il y a toujours plus de femmes. Messieurs, dites non. Non, ils ne sont pas rapides. 5000 hommes, avec les femmes, avec les enfants, au moins 10 000 personnes. Et Jésus se tourne vers ses disciples et leur dit, vous donnez-leur à manger. Est-ce que vous savez que Jésus savait qu'ils avaient la capacité de le faire? Ce que Jésus a fini par faire, eux avaient la capacité de le faire. Sinon, il ne leur aurait pas dit de le faire. Et ils ne le croyaient pas. Ils venaient voir des guérisons extraordinaires. Mais là, ils étaient confrontés à une autre situation et ils ne croyaient pas. Ils ne savaient pas quoi faire. Combien de fois est-ce que nous passons à côté de grandes choses parce que nous refusons de nous responsabiliser? Parce que nous continuons à jouer les spectateurs dans le royaume de Dieu. Parce que nous n'avons pas compris que Jésus est venu pour que nous soyons sauvés, mais que le monde soit sauvé. Jésus leur a dit de leur donner à manger. Et évidemment, eux, c'était étrange. Ils ont dit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. À moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Et ça, c'était pas, ok, d'accord, je me porte volontaire pour aller faire les courses. Ça, c'était, mais attends, tu plaisantes. Regarde tout ce qu'on a. On va quand même pas aller acheter pour nourrir tous ces gens. Dis-toi à ton voisin, donne-leur à manger. C'est important pour nous de comprendre que c'est ce que Jésus attend de nous. Vous savez, ça me brise toujours le cœur quand je demande aux gens. Quelqu'un vient qui est nouveau et qui manifestement ne va pas bien. Si, appelle-le dans la semaine. Prie avec lui. Tu l'as fait? Non. Mais tu ne l'as pas fait. Parce que tu n'as pas compris qu'il allait mal et que tu étais totalement indifférent à son état. Ou que tu n'as pas compris que c'est à toi que Dieu a confié cette personne. Et que Jésus va te demander des comptes pour ce qui lui arrive. Et souvent, lorsque nous faisons cela, nous passons à côté de grandes choses, à côté de miracles, à côté de guérison, à côté de délivrance, à côté de restauration. Au tout début de l'église, lorsque Martine est venue pour la première fois, c'était en numéro. Je partais en Nouvelle-Zélande. J'ai dit à Béa, ne lâche pas cette fille, appelle-la. Béa l'a appelée, elle a encouragé, elle a prié avec elle. Et plus tard, lorsqu'elle a donné son témoignage, elle nous a dit à quel point elle était sur le point de basculer de l'autre côté. Et je suis persuadée que c'était vraiment la grâce de Dieu qui l'a positionnée là où Béa pouvait l'appeler. Que si elle ne l'avait pas fait, peut-être que l'histoire serait différente aujourd'hui. Occupez-vous des affaires jusqu'à ce que je revienne. Chacun de nous a sa responsabilité. Et Jésus a ensuite multiplié les pains et les poissons. Vous connaissez l'histoire. La multiplication des pains pour les 5000 hommes. Donc ils ont vu le miracle, ils ont vu. Et on espère qu'ils auraient compris que c'est ça ce que Jésus leur demandait de faire. Et vous savez, Jésus n'est plus sur la terre. C'est à nous qu'il demande de faire maintenant. Avec la puissance du Saint-Esprit, il nous demande de faire la même chose pour aider les gens. Faire en sorte que les circonstances soient transformées. Parce que nous avons la capacité de le faire. Et figurez-vous que si tout le monde avait faim, c'est que les disciples aussi avaient faim. Et si c'était l'église du 21e siècle, on aurait gardé les 5 pains et 2 poissons pour nous, pour notre agape. et que les gens qui se débrouillent, hein, il y a des Starbucks, ils peuvent aller manger. Mais les 5 pains et les 2 poissons, on garde pour nous, quelqu'un va les mettre à côté pour que Jésus ne voit pas. On n'a rien, Seigneur. Et c'est ce que nous faisons. C'est les choses que Dieu nous a données, nous gardons pour nous. Pour nous édifier entre frères et sœurs, pour prier à fond et pour montrer que nous savons, pour louer, pour chanter, pour crier, pour lire la parole et pour proclamer, ouais, alléluia! Mais ceux dont nous sommes censés nous occuper sont en train de périr et ça ne nous regarde pas. Et Jésus nous dit, ce que je vous donne, multipliez-les et donnez-les et nourrissez ceux qui ont faim. Et vous, je peux imaginer la tête des disciples en voyant. Mais le pain, ça se multipliait, ça continuait, ça continuait. Et il y a une excitation en ces moments-là. D'abord, on a un peu honte pour dire, ah, il y en a douté. Mais après, on commence à être très excité. Et on prend le panier, on va distribuer, on est content, on est avec Jésus, on nourrit la foule. C'est comme ça quand on a des grands événements chrétiens. Waouh, on est chrétien. Et on nourrit la foule, et on nourrit la foule. Quand on est moi, Seigneur, t'es vraiment trop fort, Jésus. Pierre, t'as vu? Oh! Combien t'as dans ton panier? Oh, je peux même pas compter. Et on finit, et on compte ce qui reste, et c'est extraordinaire. C'est un miracle, on est content, et on se réjouit, on est béni, et on n'apprend rien. Pourquoi je dis qu'on n'apprend rien? Parce qu'il se passe quelque chose d'autre tout de suite après. Tout de suite après. Dans Matthieu 14, 22, si vous regardez la chronologie, ces événements se suivent. Matthieu 14, 22, qu'est-ce qu'il nous dit? Tout de suite après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Vous suivez? Ils sont revenus de partout, ils ont guéri des malades, ils sont arrivés vers Jésus. Il était temps de multiplier les pains pour nourrir les 5000 et... Jésus a fait l'extraordinaire miracle devant eux et il leur a dit maintenant montez dans la barque et partez. Partez de l'autre côté. Et lui, il a pris le soin de renvoyer la foule, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il nous a dit qu'après, lui, il est monté sur une montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Au verset 24, la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme! Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Donc vous voyez tout ce monde? Ils venaient de voir la multiplication de 5 pains et 2 poissons pour nourrir plus de 5000 personnes. Et donc maintenant, ils sont dans un bateau. Et au milieu de la nuit, ils voient quelqu'un et ils commencent à hurler, à crier de désespoir. Mais il se passe quelque chose ici de très intéressant. Et Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Avant d'aller plus loin, moi je vais vous dire une chose, j'admire la foi de Pierre. Parce qu'il y a quelques instants auparavant, il faisait partie des gens qui hurlaient de frayeur. Qui avait peur, qui était terrifié. Qui était dans une situation où ils avaient l'impression qu'il se passait quelque chose de très bizarre, qui criait. Et tout d'un coup, il voit que Jésus est là. Et son attitude change. Et il fait, ah! en le voyant, il se dit, encore un miracle. Ah, ça, moi, je vais pas passer à côté. Les 5000 pas, les gars, les 5000 personnes, on n'était pas à la hauteur. Là, Jésus marche sur l'eau. Moi aussi, je vais marcher sur l'eau. Là, je vais sortir. Je vais obéir. Je vais faire ce que Dieu me demande de faire. Je vais pas passer à côté. Je vais m'occuper des affaires jusqu'à ce qu'ils viennent. Je vais agir par la foi. Elle dit, cette fois-ci, c'est bon. Il marche sur l'eau, je marche sur l'eau. Et Jésus lui a dit de venir. Et il est sorti et il a marché sur l'eau. N'oubliez jamais cela. Il a marché sur l'eau. Vous avez déjà marché sur l'eau, vous. Donc, il a fait l'impossible. Ma prière pour chacun de nous, c'est qu'en cette année, nous fassions l'impossible. Amen. Il a fait l'impossible parce qu'il avait le regard sur Jésus. Amen. Et tant que nous gardons le regard sur Jésus et pas sur nos circonstances, nous allons faire l'impossible, en dépit des circonstances. Amen. C'est essentiel de le comprendre. Jésus lui dit, viens. Et il va. Mais, aïe, voyant que le vent était fort, il eut peur. Il eut peur. Au départ, il a vu Jésus. Après, il a vu les circonstances. Et dès qu'il a vu les circonstances, il a pris peur. Et dès qu'il a pris peur, il a commencé à s'enfoncer. Alors, notez bien. Le vent était contraire quand il est sorti de la barque. Le vent était contraire quand il a marché sur l'eau. Pourquoi tout d'un coup il a commencé à couler? Parce qu'il a eu peur. Il n'a pas coulé à cause de ses circonstances. Il a coulé à cause de son attitude. Pourquoi c'est important de comprendre cela? C'est important de comprendre cela parce que nous allons toujours être confrontés à des situations où nous allons décider de faire l'impossible, où nous allons décider de succomber. Et parfois, nous nous demandons pourquoi j'ai succombé, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi je pensais que Dieu voulait ça pour ma vie, je pensais que Dieu voulait que je fasse ça, je pensais que ce faisant, je faisais avancer le royaume de Dieu, pourquoi ça n'a pas marché? Et souvent, nous disons, oui, mais c'est à cause de telle circonstance, et telle circonstance, et telle circonstance. Nous devons décider que ce qui va nous motiver ne sera pas les circonstances, mais la parole de Jésus. De la même façon qu'il avait dit dans la situation précédente aux disciples de passer de l'autre côté, cette fois-ci, il a dit à Pierre, viens. Il avait la parole de Dieu. Et au tout début, tout allait bien. Pas parce que le vent ne l'avait pas remarqué. Parce que souvent, nous pensons que quand ça commence à couler, c'est parce que tout d'un coup, le diable se rend compte de ce qu'en effet, on fait, il est venu nous attaquer. Non, il nous attaquait au départ. Mais il n'a pas pu nous atteindre parce que nous avions les yeux sur Jésus et que nous étions dans la foi. Mais dès que nous avons enlevé les yeux de Jésus, que nous avons commencé à regarder ce qui n'allait pas, nous sommes devenus vulnérables. Nous pensons que c'est comme les gens qui vont, ils ont quelque chose, il se passe quelque chose dans leur vie, et ils veulent rien dire à personne, parce que sinon, si tout le monde le sait, l'ennemi va venir, mais l'ennemi est toujours là. Pensez qu'il est bête, il sait exactement ce qui se passe. Et on va toujours penser que, c'est au moment où le diable s'est réveillé, il a vu ce que je faisais, qu'il a commencé à attaquer, que j'ai coulé. Non. C'est au moment où j'ai laissé la peur me gagner. Où j'ai laissé la crainte me gagner. où j'ai laissé les circonstances conditionner mon attitude plutôt que laisser la parole de Jésus conditionner mon attitude. Vous allez voir que c'est exactement ça. Parce que il commençait à enfoncer et il s'écria, Seigneur, sauve-moi! Le même qui était sorti avec audace. Yes! Jesus said, come and I go! Hey! C'est comme des fois, les gens, il se passe quelque chose, ils sont là plein de foi. Ouais, pasteur, tu vas faire ça, on va faire ça, et yo! Et je dis, ok, dans 3 mois. Je crois tout ce que tu me dis, mais dans 3 mois, nous allons voir si tu es encore dans le même état d'esprit. Quand les difficultés vont venir, les problèmes vont venir, est-ce que tu vas continuer à dire, on va faire ça au nom de Jésus? Ouais, mais on va faire ça. Prie pour moi. C'est important pour nous de comprendre les choses qui nous plongent dans la défaite pour que nous puissions résister. Amen. Résister et donc maîtriser les circonstances de nos vies pour que nous puissions maîtriser les circonstances extérieures et que nous puissions faire ce que Jésus nous demande de faire. Alors, qu'est-ce que Jésus lui dit ici? Jésus lui dit... Et nous, on pense que, vous savez, nous, on pense que quand ce genre de choses arrive, Dieu va dire, oh, malheureuse, pauvre de toi, j'avais pas vu, aïe, pardon, aïe, c'est dur. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Cette année, je prie pour vous que vous ne laissiez pas le doute vous envahir. Quel que soit ce que Dieu a mis entre vos mains, ne laissez pas le doute vous envahir. Ne laissez pas le doute vous envahir. Quand vous sortez de la barque et que vous voyez que les vents sont contraires, gardez les yeux sur Jésus et continuez à marcher sur l'eau. Continuez à marcher au milieu des circonstances adverses. Ne lâchez pas! Ne lâchez pas. La parole de Dieu nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Donc nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. Et quand nous gardons les yeux sur Jésus, nous sommes en mesure de discerner et comprendre. Et quand nous avons décidé que notre priorité, c'est de faire ce qui fait avancer le royaume de Dieu, ça devient non négociable. Est-ce que vous me suivez? Il y a trop de gens qui n'ont pas de, comment on dit, backbone, qui n'ont pas d'épine dorsale. Il est important que les chrétiens soient fermes. 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 Jésus a dit, occupez du terrain jusqu'à ce que je vienne. Que rien ne nous empêche de le faire. Rien. Mais les chrétiens sont tellement, oui, en une minute c'est ça, le lendemain c'est autre chose, après c'est autre chose, après c'est ça, c'est telle situation, c'est telle personne, c'est tel ceci, et ils lâchent, et ils lâchent, et ils lâchent, et ils pensent qu'ils sont des victimes, mais Dieu vous demandera de rendre des comptes pour tout ce qu'il vous a confié. Parce qu'à chacun de nous, il dit, occupez jusqu'à ce que je revienne. Le monde meurt, les gens meurent. La détresse, la... Vous savez, je regardais mes mails hier et j'avais tout un tas de spam. Et de toutes ces personnes qui vous envoient un truc pour essayer de vous escroquer. Et je suis Claudine Brandt, je suis Marine Saucy, je suis... Et un autre jour, j'ai lu un mail à quelqu'un, je dis, qu'est-ce qui va pas avec ce mail? Et cette personne a donné un nom bien français, disons qu'elle était canadienne, donc québécois, j'imagine, mais en utilisant une expression purement africaine. Mais une expression en français que les Africains utilisent. Je dis, mais attends, elle est canadienne, ça alors. Et elle veut me confier de l'argent. Et beaucoup qui écrivent te disent, ah, bien aimé, c'est Dieu qui m'envoie pour vous envoyer ce courrier. C'est vraiment par la grâce de l'Éternel que j'ai pu isoler votre numéro de, votre adresse email, par, entre toutes les adresses qu'il y a sur Internet. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose de grand que l'Éternel veut faire avec vous et avec nous ensemble. Et j'ai cet héritage que je veux vous confier pour l'œuvre de Dieu, mais je reçois ça toutes les semaines. Avec des prénoms et des noms différents. Et vous savez, il était en train de dire, mais c'est n'importe quoi. Maintenant, je regarde ça et je dis, mais c'est malheureux. Ces gens sont malheureux. Pour vivre, vous avez recours à ce genre de bêtises. Et on se rend compte à quel point le monde est malheureux. Et que ceux qui connaissent pas le Seigneur sont malheureux. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus regardait ces gens et disait, mais ce sont des brebis sans berger. Vous vous rendez compte? Des brebis sans berger. Et c'est nous qu'il demande d'aller les secourir. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a de la joie au ciel quand une seule âme est sauvée. Les anges, littéralement, sortent les tambours et se réjouissent. Quand tu vas voir cette personne, pour laquelle tu as prié non-stop et qui, enfin, elle donne sa vie au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? La joie au ciel. Les anges commencent à se déchaîner. C'est à ce point que l'être humain a de la valeur aux yeux de Dieu. Mais est-ce que les gens ont de la valeur à nos yeux? Tout ce que nous faisons pour amener l'évangile aux gens est important. Je vais vous demander de regarder dans Matthieu 17. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une progression dans tout ce que nous sommes en train de voir, parce que c'est, il y a une chronologie dans ces événements. Et ces choses sont là, non seulement pour que nous puissions voir comment les apôtres ont réagi, mais pour que nous puissions comprendre ce que Dieu attend de nous. Mais juste vivra par sa foi. Et si nous voulons réellement être utiles à Dieu sur la terre, nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu, de croire ce que Dieu dit et de lui faire confiance. Et de cesser d'être de ces chrétiens que, où dès que les choses vont mal, sont prêts à laisser tomber. Et si Jésus avait laissé tomber? Vous savez, on demande aux gens de lire l'évangile de Jean quand ils sont nouveau convertis. Mais moi, quand je lis l'évangile de Jean, je suis étonnée par l'hostilité des gens envers Jésus. L'hostilité des leaders religieux. Leur hostilité à son égard. Et là, on prend vraiment la mesure de son cœur pour l'être humain. Ce qu'il a enduré, non pas uniquement dans sa mort, mais même dans sa vie. Des gens ignorants et bêtes. Le cri de mon cœur, c'est vraiment que nous comprenions ces choses et que nous commencions réellement à nous donner à fond pour le Seigneur. Que rien ne soit trop pour Dieu. Qu'on arrive au point où si c'est pour le Seigneur, c'est bon. Quel que soit ce que ça me demande, quel que soit ce que ça me coûte. Si c'est pour que je puisse occuper jusqu'à ce qu'ils viennent, c'est bon. C'est là où on commence à voir la maturité. Dans Matthieu 17, on voit la transfiguration. Jésus est monté sur une montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Il a laissé ses autres disciples en bas avec le peuple. C'est très intéressant ce qui se passe parce que lorsque Jésus revient, il y a une petite situation. Il nous dit que lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, lorsqu'ils sont descendus, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. » Et il y a quelque chose aussi que Marc ajoute dans ce passage que j'aimerais vous lire. Est-ce que vous êtes là? Et Jésus leur demanda de quoi discutez-vous avec eux, parce que les gens étaient en train de chahuter ses disciples. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » Et on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?»« Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. » Et ici, il dit, « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. » Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de dire ça à Dieu aujourd'hui? Il y a beaucoup de gens que vous côtoyez chaque jour qui sont en train de dire à Dieu dans le secret, « Si tu peux quelque chose, aide-moi. » Et Jésus avait mandaté ses disciples d'aller guérir les malades et d'aller chasser les démons. Et cette situation se produit après. Donc, ils ont déjà une certaine expérience. Ils ont déjà fait, mais cette fois-ci, ils n'ont pas pu. Au point où cet homme est venu jusqu'à Jésus pour dire, « Mais si tu peux faire quelque chose. » Et Jésus l'a guéri. Et dans Matthieu 17, verset 19, « Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu ? Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» Il chassait déjà des démons. Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. C'est à cause de votre incrédulité. Est-ce que vous suivez ? C'est à cause de votre incrédulité. Nous avons fait une série d'enseignements, nous avons parlé longuement de la parole de Dieu. Nous avons dit que la foi vient de la parole de Dieu. Et c'est le fondement de tout. Et Jésus, dans chacune de ces situations, indique une chose qui a été la cause de leur échec, l'incrédulité. Une chose. Non pas les circonstances, non pas la gravité de la maladie, non pas la gravité de la tempête, mais l'incrédulité. Cette année, nous allons faire confiance à Dieu. Vous n'êtes pas d'accord? Cette année, nous allons marcher par la foi. Cette année, nous allons être comme ces héros de Hébreux 11 qui ont terrassé les lions, qui ont changé les circonstances à cause de leur foi. Et tout ce que Dieu va opérer dans nos vies, il va faire avec notre foi. Tout ce que Dieu va opérer à travers nous, il va faire avec notre foi. Vous savez, c'est très intéressant. Parce que Jésus leur dit ici, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Je veux que vous le déclariez sur la personne à côté de vous. Rien ne te sera impossible.
Rien ne te sera impossible.
Rien ne te sera impossible. Pourquoi rien ne nous sera impossible? Parce que nous fonctionnons selon d'autres règles. Nous appartenons à notre royaume. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne fonctionnons pas selon le même système. Nous n'avons pas le même Dieu. Nous n'avons pas le même principe. Nous n'avons pas le même pouvoir qui agit en notre faveur et à travers nous. Et il faut cesser de fonctionner dans le système du monde et commencer à fonctionner dans le système de Dieu. Parce que dans le système de Dieu, dès qu'un de ses enfants a confiance en lui, il peut faire des choses extraordinaires dans sa vie et des choses extraordinaires à travers lui. Parce que pour lui, lorsque quelqu'un lui fait confiance, rien ne lui sera impossible. C'est important. Mais c'est important qui vous écoutez. Si vous écoutez les informations sur la crise, les informations sur ceci, vous allez être constamment obsédé par votre vie, votre survie. Vous n'allez pas occuper jusqu'à ce qu'il vienne et même votre survie sera aléatoire. Vous allez faire des compromis dans votre vie parce que vous voulez garantir votre survie à cause de la peur. Et la parole de Dieu est très claire. Qu'est-ce qui nous mine? C'est la peur et l'incrédulité. Ce ne sont pas les circonstances. Toute circonstance est sujette au changement. Toutes circonstances. Mais le changement est opéré par la puissance de Dieu qui est libérée à travers notre foi. C'est réellement extraordinaire. Et c'est important que nous intégrions ces choses, que nous y réfléchissions, que nous les méditions, pour que nous commencions à nous positionner différemment. Jésus a dit à ses disciples qu'avec 5 pains et 2 poissons nourrissait plus de 5000 personnes. Et Jésus nous donne aujourd'hui un mandat. Il nous dit de faire des choses qui nous dépassent dans le naturel. Mais avec la foi, on a la capacité de Dieu d'agir à travers nous. Rien ne nous sera impossible. Mais il faut décider. Décider. Qu'aucune situation et circonstance de la vie ne m'empêchera de faire la volonté de Dieu. Et commencez à laisser Dieu amener des rêves en vous qui dépassent vos capacités naturelles. Jésus a dit à ses hommes de nourrir plus de 5000 personnes. Il savait de quoi il parlait. Il aurait suffi qu'ils disent « D'accord, je vais le faire » et ils auraient pu multiplier le pain. Et nous pensons que Dieu va faire lorsque nous aurons tout dans le naturel qui serait comme il faut parce que Dieu a besoin de notre naturel pour faire. Non, Dieu a besoin simplement de notre foi pour faire. C'est pour cela que vous devez commencer à rêver grand. À laisser Dieu mettre de grands rêves en vous pour son royaume. Et ne pas dire, oui, j'attends quand j'aurai ceci et quand j'aurai ça. Mais ça n'a rien à voir avec ce que tu as. Ça a tout à voir avec ce que Dieu a. Et nous passons à côté de choses parce que nous n'osons pas rêver. Nous attendons que nous soyons en état pour faire. Dieu est toujours en état pour faire. Toujours en état pour faire. Vous n'avez pas un centime et il vous dit, tu vas aller dans les nations. Vous dites, ok, ben quand je vais avoir des sous, je vais y aller. Mais non, commencez déjà à y aller. Dieu vous demande de lancer un projet pour nourrir des gens tous les jours. Vous dites, ok, quand l'église sera grande, quand nous serons 5000 personnes, on va pouvoir. Ça veut dire que c'est nous qui allons le faire, ce n'est pas Dieu qui va le faire. Mais quand Dieu dit, je veux faire ça, il attend un homme et une femme qui va saisir la vision, qui va lui faire confiance, qui va appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Qui va appeler la provision pour nourrir les gens tous les jours. Appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et c'est pour cela que nous sommes limités. Nous attendons que les choses existent avant de commencer à rêver, avant de commencer à avancer. Non, nous, ce que Dieu veut faire existe déjà. Mais il faut des gens qui vont lui faire confiance, qui vont regarder au-delà de leurs circonstances naturelles et qui vont se mettre dedans et dire, Seigneur, tu as envie de faire ça? Moi aussi, j'ai envie que tu le fasses. Je me mets avec toi, je te fais confiance. J'appelle à l'existence ce qui n'existe pas dans le naturel et ce qui existe au ciel va se manifester sur la terre. Quelles que soient mes circonstances naturelles, ça n'a rien à voir. Les disciples n'avaient pas d'argent. Mais ils avaient la foi et ils n'ont pas su s'en servir. Et ils sont venus à Jésus, qu'est-ce que fait? On va les renvoyer. Jésus a dit, c'est à vous de vous en occuper. C'est à vous de vous en occuper. Oh, vous avez à cœur un programme d'évangélisation et vous n'avez pas un centime. C'est très bien. Dieu a de quoi faire. Ah oui, mais on va attendre quand on aura plus d'argent. Mais ça n'a rien à voir. C'est quand on a un projet qu'on appelle à l'existence la provision pour ce projet. Dieu ne donne pas des sous juste pour somnoler en banque. Est-ce que vous me suivez? Et les gens sont dans la défaite parce qu'ils disent, oui, mais si on avait ci, si on avait ça, mais ça n'a rien à voir. Strictement rien à voir. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Quand la vision est mûre et que l'on sait que c'est le temps, on le fait. On le fait. On va nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Ou bien on peut attendre 30 ans de devenir milliardaire et maintenant de les convier pour un repas. Occupé jusqu'à ce que je revienne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une récompense. Je vous invite à relire cette histoire. Il y a une récompense. Nous ne sommes jamais heureux tant que nous ne vivons pas pour quelque chose qui est au-delà de nous-mêmes. Parce que Dieu nous a fait pour être des pourvoyeurs. Et tant que nous ne sommes pas en train de satisfaire ce besoin de pourvoir et que nous ne nous concentrons que sur ce qui nous est pourvu, nous ne sommes pas pleinement satisfaits. Jamais pleinement satisfaits. Jamais. Il y a toujours un vide, il y a toujours un creux. Oh, le diable continue à nous dire, non, il faut que toi tu sois entièrement pourvu avant de pouvoir pourvoir. Non. C'est en pourvoyant que nous sommes pourvus. Je vous invite vraiment à méditer sur Jésus. Je suis toujours émerveillée par la bienveillance de Dieu. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu. C'est pour ça que j'aime tellement l'apôtre Paul. Parce que j'ai l'impression que cet homme, il a saisi quelque chose. Il a saisi quelque chose. Il a compris cette bienveillance extraordinaire de Dieu. Et il s'est jeté dedans. Corps, âme et esprit. Il a tout lâché, tout abandonné. Tout. Tout. Il a saisi. Et c'est ce que je prie constamment pour les gens qui viennent à Christ. Je dis, Seigneur, révèle-toi à eux. Qui te voit. Que ça cesse d'être une affaire de moi, que ça devienne une affaire de Jésus. Et quand ça devient une affaire de Jésus, rien ne peut plus nous arrêter. Rien. Quand ça devient une affaire de Jésus, plus cette compréhension de qui est Jésus grandit, plus nous ne comprenons plus que quoi que ce soit puisse nous arrêter. La question ne se pose même plus. Que ce soit ce que je suis, ce que je ne suis pas, ce que je sais, ce que je ne sais pas, ce que je souffre, ce que je ne souffre pas, rien. Tout ce que je vois, c'est le Fils de Dieu, son grand amour pour moi et son besoin que moi, j'occupe à sa place jusqu'à ce qu'il revienne. Et c'est là où on est à plat ventre devant Dieu. On dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tant que nous sommes encore uniquement dans ce que Dieu peut faire pour nous, tant que nous sommes encore uniquement dans ce qui me convient, ce qui m'arrange, ce qui me sied, ce qui ceci, nous n'avons pas encore grandi. Nous ne voyons pas encore le Fils de Dieu. Nous ne comprenons pas encore le besoin de toutes ces multitudes qui sont comme des brebis sans berger. Et que Jésus a désespérément envie de sauver. Ce qui est merveilleux en plus, c'est qu'il y a une récompense. En fonction de la manière dont nous aurons agi. Et là, on ne peut même pas dire que oui, bon, tu es partiel, parce que tu aimes en terre plus que moi. Là, on est face à l'Éternel, celui qui ne se trompe jamais. Mon désir vraiment, c'est que nos vies aient du sens. Et un sens qui va au-delà du charnel et du naturel. Que nous puissions amasser des trésors dans le royaume de Dieu. Que nous puissions amasser des trésors au ciel. Que notre existence fasse la différence pour notre génération. C'est tellement important de voir grand, de se voir grand en Christ. En Christ. L'autre jour, quelqu'un que vous connaissez tous m'a dit, mais ah, il est bien ton gars là. J'ai dit qui? Là, il a évoqué quelqu'un. Oui, parce qu'il m'a demandé, alors, tu vas à l'église, là? Et je lui ai dit, non, non, pour l'instant, je n'ai pas dans l'église. Il m'a exhorté, il m'a encouragé. Ah, c'est bien de l'avoir mis à l'accueil. Hein? Ah, il m'a encouragé. Et la personne était touchée. Et ça m'a béni. Ça m'a béni parce que c'est quelqu'un qui m'est très cher et j'étais contente que quelqu'un l'exhorte, parce que je l'exhorte. Mais que quelqu'un l'exhorte comme ça, ça a touché son cœur. Et ça a eu un impact sur la personne. Nous ne savons pas l'impact que nous pouvons avoir dans le royaume de Dieu. Nous ne savons pas l'impact que nous pouvons avoir sur d'autres vies. C'est vraiment important pour nous de sortir de notre égoïsme. De sortir de cette... Les disciples avaient de quoi nourrir 5000 personnes et ils ne le savaient même pas. Vous n'imaginez même pas ce dont vous êtes capable en Christ. Si vous commencez à voir Jésus, à aimer ceux que Jésus aime. Un jour avant de tourner l'émission, vous savez, c'est bizarre de juste parler à une caméra. Mais un jour avant de tourner, en prière, j'ai commencé à voir des foules. J'ai commencé à voir les gens de l'autre côté qui regardaient. J'ai commencé à voir des situations différentes, des circonstances différentes et des gens qui attendaient. Et des gens dont la vie était changée, qui ont eu une parole d'espoir. Nous n'imaginons pas l'importance de ce que Dieu nous demande de faire. Nous n'imaginons pas à quel point nous faisons plaisir à Dieu lorsque nous suivons le mandat de Jésus. Je vous encourage, nous ne vivons qu'une seule fois. Faites en sorte que votre vie compte pour quelque chose dans le royaume de Dieu. Faites en sorte que votre génération soit changée par votre présence. Faites en sorte que l'agneau qui a été immolé reçoive la récompense de ses souffrances. Faites en sorte que Jésus soit honoré. Et vous savez, cette personne qui a été touchée n'a pas été touchée par ma prédication. Celle dont je parlais a été touchée par quelqu'un qui était à l'accueil et qui l'a exhorté. Et ce que Dieu va faire dans sa vie, il a sa part. Il a sa part. Remercions le Seigneur. Nous allons simplement bénir le Seigneur ce matin. Je voudrais que ceux qui ont envie de dire à Dieu ce matin, je vais t'écouter. J'ai compris le sens de cette parabole. Je vais occuper le terrain jusqu'à ce que tu viennes. Je vais m'occuper de tes affaires jusqu'à ton retour, Seigneur. Qui le dit simplement au Seigneur?
Thank you, Lord. Thank you, Father. Père, nous te remercions. Père, nous te demandons de nous donner une révélation de Jésus. Que nous comprenions exactement ce pour lequel il était venu. Te demandons, Père, de faire en sorte que nos cœurs, la dureté de nos cœurs soit brisée. Donne-nous des cœurs de chair au lieu des cœurs de pierre. Nous voulons épouser pleinement ta cause. Avoir la même attitude qui était en Jésus. Seigneur, nous voulons que notre existence compte dans le royaume de Dieu. Nous voulons que tous ces trésors que tu as mis à l'intérieur de nous puissent être libérés pour notre génération. Nous voulons que les gens et les vies qui nous entourent soient changés par la nôtre. Nous voulons, avec les 5 pains et 2 poissons, nourrir des multitudes. Cette année, nous allons te faire confiance, Papa. Nous allons grandir dans la foi. Nous allons grandir dans l'engagement. Nous allons grandir dans le sérieux. Et nous voulons, Père, que tu sois fier de nous. Nous voulons, Père, que tu regardes ton œuvre avancer entre nos mains et que tu aies plaisir à nous voir. Nous voulons que tu vois les gens que tu aimes secourus et délivrés à travers nous. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons nous asseoir, nous allons préparer nos offrandes. Je vais demander au groupe de louanges de chanter et à la fin du chant, le panier sera passé dans les rangs.